Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Devenir riche, ça s'apprend » est un guide de finances personnelles de Mavis et Prika Gibernet, actuaires, investisseuses et coach en intelligence financière. Son sous-titre situe clairement le projet « Conduire le lecteur de la gestion quotidienne de son argent vers une forme de liberté financière ». Le livre se présente comme un parcours en 7 étapes, conçu pour des personnes qui terminent le mois avec difficulté, qui souhaitent mieux épargner ou qui envisagent un premier investissement sans disposer de solides connaissances financières. L'approche repose sur des méthodes annoncées comme simples et pragmatiques, nourries par le parcours de l'auteur, qui évoque son cheminement de la pauvreté vers une situation plus prospère. Les thèmes vérifiables associés au livre comprennent la reprise du contrôle budgétaire, le traitement des dettes toxiques, la constitution d'une épargne, la création de revenus passifs et l'investissement, notamment immobilier. Il ne promet donc pas un enrichissement instantané, il organise une progression entre diagnostic, discipline financière et déploiement graduel du capital. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un parcours en 7 étapes pour passer du désordre financier à l'autonomie. La caractéristique structurante du livre est son parcours en 7 étapes vers l'indépendance financière. Cette organisation importe car elle évite de traiter investissement, budget et revenus passifs comme des sujets isolés. Le point de départ est le niveau réel du lecteur, qu'il soit marqué par le découvert, l'absence d'épargne ou une gestion déjà stable mais insuffisamment dynamique. La progression proposée suggère qu'une situation financière se transforme dans un ordre comprendre ses flux d'argent, corriger ce qui fragilise le budget, accumuler une marge de sécurité, puis orienter cette marge vers des actifs ou des projets. Cette logique est plus réaliste que la recherche immédiate d'un rendement élevé. Sans visibilité sur les dépenses ni réserves disponibles, un investissement peut accroître le risque plutôt que la liberté. Le cadre en étapes a aussi une fonction pédagogique, il traduit un objectif vaste, devenir financièrement autonome en décisions successives et observables. Le lecteur est invité à relier ses choix courants à un horizon patrimonial plus long. Le livre se distingue ainsi par une ambition de méthode applicable. Même si les modalités concrètes doivent naturellement être adaptées aux revenus, aux charges, au pays de résidence et à la tolérance au risque de chacun. Deuxièmement, reprendre le contrôle des finances personnelles avant de chercher le rendement. Le livre place la maîtrise des finances personnelles à la base de la démarche. Ce choix répond à une difficulté fréquente, vouloir investir sans savoir précisément ce que les dépenses fixes, les dépenses variables, les crédits et les imprévus laissent réellement disponibles. Reprendre le contrôle signifie d'abord rendre la situation lisible, un budget nest pas présenté comme une simple restriction, mais comme un outil de décision qui permet de distinguer les engagements incompressibles des arbitrages possibles. Cette visibilité aide aussi à mesurer la capacité d'épargne de manière durable, plutôt que de confondre une rentrée ponctuelle avec un surplus régulier. La perspective du livre consiste à transformer la relation à l'argent en pratique active suivre, prioriser et ajuster. Ce travail crée un lien direct entre les habitudes quotidiennes et la possibilité future de financer des projets. Il réduit également le risque de prendre des décisions d'investissement sous pression, par exemple pour compenser un manque de trésorerie. Pour un public débutant, cette insistance sur les fondamentaux rend le sujet financier moins opaque. Elle rappelle que la liberté financière ne dépend pas uniquement du montant gagné, mais de la part conservée, organisée et disponible pour construire progressivement un patrimoine. Troisièmement, sortir des dettes toxiques afin de restaurer une capacité d'épargne. La libération des dettes toxiques figure parmi les apprentissages explicitement annoncés par l'ouvrage. Dans une stratégie patrimoniale, cette priorité est cohérente, une dette coûteuse ou mal maîtrisée absorbe des revenus, limite la marge de manœuvre et peut annuler les bénéfices attendus d'une épargne ou d'un placement. Le terme toxique invite à ne pas réduire toute dette à une même catégorie. L'enjeu est plutôt d'identifier les engagements qui pèsent de manière disproportionnée sur le budget, entretiennent le découvert ou empêchent de constituer une réserve. Le livre relie donc désendettement et enrichissement, une association parfois moins séduisante que les discours centrés sur les gains rapides, mais déterminante pour assainir une situation. Rembourser peut être compris comme une amélioration du flux de trésorerie. Chaque échéance supprimée rend une part du revenu à de futurs usages. Cette étape exige aussi de prévenir le retour de l'endettement par un suivi budgétaire et une épargne de précaution. L'intérêt analytique de cette approche est de rappeler que la progression financière dépend autant de la réduction des fragilités que de l'acquisition d'actifs. La dette doit toutefois être examinée selon ses conditions, son coût et sa place dans l'ensemble de la situation personnelle. Quatrièmement, constituer une épargne intelligente comme réserve et comme capital de départ. L'épargne occupe une position intermédiaire essentielle entre le contrôle budgétaire et l'investissement. Le livre propose de se constituer une épargne et souligne la nécessité de l'épargner intelligemment. Cette formulation renvoie à une distinction utile: mettre de l'argent de côté ne suffit pas si l'effort est irrégulier, sans objectif ou exposé à des besoins immédiats. Une épargne organisée peut remplir plusieurs fonctions. Elle sert d'abord de réserve face aux imprévus, ce qui évite de recourir trop facilement au crédit. Elle devient ensuite un capital de départ pour des projets, une formation, une activité ou un investissement. Enfin, elle installe une habitude de prélèvement sur les revenus, qui rend le développement patrimonial moins dépendant d'une décision exceptionnelle. Le livre semble viser des lecteurs pour lesquels l'épargne paraît difficile ou inaccessible. Sa contribution consiste alors à la replacer dans une séquence concrète, dégager une capacité grâce à une meilleure gestion et à la réduction des dettes, puis affecter cette capacité de façon intentionnelle. Il ne faut pas confondre cette approche avec une garantie de performance. Le choix des supports dépend de l'échéance, de la liquidité recherchée, du risque accepté et de la fiscalité. Le principe central demeure la création méthodique d'une marge financière mobilisable. En dernier lieu, revenus passifs et immobiliers comme levier progressif de liberté financière, la génération de revenus passifs et l'investissement immobilier comptent parmi les prolongements les plus visibles du livre. Leur présence donne un horizon concret à la gestion budgétaire. Il ne s'agit pas seulement de mieux administrer un salaire, mais de chercher des sources de revenus moins directement liées au temps de travail. Le terme passif doit cependant être lu avec prudence. Un actif générant un revenu demande généralement du capital, une analyse préalable, des décisions de financement, de l'administration et une gestion des risques. L'immeuble, particulièrement mis en avant dans la présentation du livre, illustre bien cette réalité. Il peut participer à la construction d'un patrimoine, mais il implique aussi des charges, des périodes sans locataire, des travaux, des règles juridiques et un risque de marché. L'intérêt du positionnement de l'auteur est d'intégrer ces leviers après les fondations financières plutôt que de les présenter comme une solution magique. Le lecteur est ainsi conduit à considérer l'investissement comme une étape de déploiement d'un capital et de compétences, non comme un substitut à la discipline. Cette orientation peut être utile aux personnes désireuses de comprendre pourquoi l'épargne seule ne suffit pas toujours à atteindre une autonomie durable. Toute décision reste néanmoins à contextualiser et peut justifier un avis professionnel adapté. En conclusion, ce livre s'adresse en priorité aux lecteurs francophones qui souhaitent acquérir des repères de base en finances personnelles et qui recherchent un cheminement ordonné plutôt qu'un traité technique. Il peut être particulièrement pertinent pour les personnes confrontées au découvert, à une épargne fragile, à des dettes coûteuses ou à une hésitation face aux premiers investissements. Son bénéfice pratique réside dans la mise en relation de sujets souvent traités séparément: budget, désendettement, épargne et création de revenus. Cette continuité aide à comprendre que la liberté financière ne se réduit ni à un niveau de salaire, ni à une opération immobilière réussie, mais dépend d'un ensemble de décisions cohérentes dans le temps. Le livre peut aussi intéresser les lecteurs qui veulent une vulgarisation portée par une auteure exerçant comme actuaire, investisseuse et coach, et qui partage son expérience personnelle comme point d'appui. Par rapport à des ouvrages du même genre, il se démarque surtout par son format en 7 étapes, et par le lien explicite entre assainissement financier et investissement immobilier. Il ne remplace toutefois ni une analyse personnalisée de l'endettement, ni des conseils juridiques, fiscaux ou patrimoniaux. Sa valeur se situe donc dans l'orientation et la structuration de l'action: clarifier sa situation, sécuriser ses bases, puis examiner avec méthode les moyens de développer des revenus et un patrimoine. Si vous souhaitez soutenir Mehevis Seprika Giberné, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!